Passagem de nível com Arthur Silva.
Bonjour à toutes et à tous. Passage à niveau, c'est dimanche 14 avril et l'essentiel de la programmation, ça va être autour encore le 50e anniversaire, la révolution des œillets. On va parler de l'initiative le 21 avril à Champigny-sur-Marne. Après, on parlera également d'une semaine, à partir du 20 avril à Tissemence, sans oublier de BD. Maria et Salazar de Robin Alter et une autre bourrelette qui, bon, là, c'est pour connaître un petit peu l'histoire. Le père de Madeleine n'a jamais voulu raconter son histoire. Pourquoi est-ce qu'il était venu ici? Il était réfugié. Et sans oublier aussi qu'on va parler de théâtre, pièce théâtre musical Sona d'ici et là-bas, qui va être représenté du 18 au 21 à Monaco. Un grand bonjour à nos auditeurs de Monaco et de PACA. Et on arrive même à Marseille. Mais avant tout, Daniel Pamplona, bonjour, bon dia et obrigado por estar aqui em direto conosco.
Obrigada, eu.
Prazer é todo meu. Merci également à Julien Léger, secrétaire de la section PCF de Champigny. Julien Léger, merci. Je sais que c'est dimanche, mais...
Merci de votre invitation. Bonjour.
Voilà, donc cette journée de réalité, ça va être une journée entière. Tout commence à 10h30, justement, à Champigny-sur-Marne, 14 rue Guittard, à 50 mètres du cinéma Studio 66. Alors, Julien, le pourquoi de cette journée, bien entendu, 25 avril, la révolution des œillets, et ça c'était une date très importante, d'ailleurs même pour les Français.
Oui. Effectivement, on est extrêmement enthousiaste et impatient de pouvoir organiser cette initiative le dimanche 21 avril pour commémorer ensemble avec nos amis portugais la 50e anniversaire de la révolution des œillets. C'est une date importante pour les Campinois, pour les Val-de-Marnais même, puisque on le sait, dans le Val-de-Marne, il y a beaucoup de Portugais. Et c'est un grand honneur pour nous de pouvoir construire cette initiative avec nos amis portugais, recevoir un dirigeant national du Parti communiste portugais qui s'appelle Albano Nunes.
Qu'on va interviewer la semaine prochaine parce qu'il arrive au milieu de la semaine qui vient.
Et pour nous, pouvoir honorer cette date, eh bien, c'est mettre en lumière les liens que nous avons et avec les progressistes à travers l'Europe, à travers le monde, honorer les valeurs d'avril et également mettre en lumière l'action particulière à Champigny de maire communiste Louis Talamoni, qui a eu une importance capitale pour l'accueil et l'intégration des Portugais dans notre ville.
D'ailleurs, on va y revenir dans la mesure où on va avoir par téléphone Madame Virginie Talamoni. Je m'excuse, Madame Talamoni, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous, c'est exprès que j'ai dit Talamoni, parce que votre grand-père était corse et il a toujours défendu sa corsitude.
Oui. Oui, effectivement. Et puis je pense aussi que c'était parce qu'il avait dû quitter la Corse qu'il savait ce qu'était le déracinement.
Oui, tout à fait. Il a quitté la Corse. Elle avait 12 ans, sauf erreur de ma part. Oui. Mais on va y venir parce que Louis Talamoni a fait beaucoup, beaucoup de choses pour la communauté portugaise et pas seulement pour la communauté portugaise. Dans sa fonction de maire, de sénateur, on va y revenir. Mais Daniel Pamplona, donc fêté le 25 avril en France et à Champigny, c'est important pour vous?
Ah, naturellement. Donc, en France, c'était toujours à bien accueillir les Portugais. Il y a beaucoup, particulièrement à Champigny, ça a été, le maire était très important et très, il a bien aidé les Portugais, travaillé avec les Portugais et pour les Portugais. Donc c'est intéressant et très, nous sommes très enthousiastes d'aller à Champigny, de faire notre initiative à Champigny, de partager notre témoignage, de partager qu'est-ce qui s'est passé avant le 25 avril, le temps du fascisme, le temps de la dictature, et après, comment on va parler aussi un peu de comment ça passait le 25 avril. Il y a aussi une exposition, donc on va voir le témoignage et aussi l'exposition sur le 25 avril, et après, qu'est-ce qui s'est passé après le 25 avril, le temps immédiatement après la Constitution, l'écriture de la Constitution.
1975, oui, effectivement.
Et on va grandir jusqu'à aujourd'hui, on va aller jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Le fascisme ou l'extrême droite grandit à l'Europe, aussi au Portugal, d'une façon très vite et très préoccupante. On voit les mots, les expressions que ressemblent les choses que Salazar utilise, le Dieu, patrie, famille, les choses comme ça. Mmh. Et donc, on voit partout, en Portugal, en France, etc. Donc, il faut revenir. Oh, je pense qu'il faut voir qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui s'est passé. Et naturellement, Champigny, ça c'est un bon exemple en début de converse. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a fait, etc.
Alors, je rappelle, Daniel Pamplona, que vous êtes responsable de la cellule du PCP de la région Île-de-France. Alors, Madame Virginie Talamoni, donc, à 11h, justement, de dimanche prochain, le 21, vous allez aborder l'histoire de l'accueil des Portugais à Champigny après la fuite, la dictature extrême droite au Portugal, l'accueil et l'action de la municipalité communiste de Louis Talamoni. Ça, c'est très important parce qu'il faut mettre les choses dans son contexte. Et d'ailleurs, votre grand-père a été maire de Champigny entre 1950 et 1975. 75, c'est la date où malheureusement il est décédé. Mais finalement, votre grand-père a accompagné tout ça, cet exode. Alors, on parlait d'immigration économique, mais en réalité, c'était une immigration politique parce qu'il fouillait la misère et pas seulement, Madame Talamoni.
Oui, tout à fait. En fait, bon, le contexte démographique et politique de ces années-là était très compliqué. Et effectivement, la communauté portugaise qui est arrivée principalement à Champigny dans ces années-là, et bien sûr, enfin, c'était vraiment une immigration au départ économique, mais aussi parce que la dictature Salazar rendait la vie extrêmement compliquée, voire impossible. Pour les familles portugaises. Et puis, cet exode, enfin, cette immigration a augmenté drastiquement à partir de 61, quand ont commencé les guerres coloniales, Angola, Guinée-Bissau, Mozambique. Et là, effectivement, la municipalité de Champigny, et plus particulièrement mon grand-père, Louis Talamoni, ne pouvait pas rester spectateur. Devant la détresse de ces hommes. Au départ, en fait, les conditions d'immigration étaient extrêmement compliquées. Il fallait souvent quitter à pied le Portugal. Et il fallait traverser dans des conditions physiques très, très compliquées l'Espagne. Et donc, c'est pour cela qu'au départ, ce n'était que des hommes seuls. Puis qu'il y ait la guerre, mais aussi parce que les femmes et enfants n'auraient pas pu supporter physiquement ces conditions de voyage.
Et d'ailleurs, le maire Louis Talamoni, il s'est battu contre le préfet. Comme sénateur, il a proposé un certain nombre de lois. Et disons que c'est grâce à son action qu'on a pu avoir de l'eau et de l'électricité dans le bidonville de Champigny. C'est très important parce que c'était incroyable la façon comme la vie, je ne sais pas, c'était plutôt de la survie, non, dans ces bidonvilles.
Ah oui, il y a eu tout à faire, puisqu'effectivement, comme vous le soulignez, pendant toute la durée où la municipalité de Champigny a accompagné la communauté du bidonville, il a fallu se battre aussi. En fait, c'était un combat sur plusieurs fronts. Il fallait se battre contre la misère, essayer d'apporter des conditions de survie plus dignes, mais de survie, pas de vie, hein, comme vous le disiez, et puis aussi se battre contre les différents gouvernements qui se sont succédés et les préfets qu'ils ont nommés pendant cette période, puisque ce n'était pas très populaire de venir en aide aux bidonvilles et aux gens du bidonville. Donc il a fallu progressivement apporter l'eau, faire aussi un petit peu, enfin tracer un petit peu des allées et des routes, parce qu'en fait, les conditions de l'époque, quand on regarde les photos et les films qui ont été tournés, on est dans des favelas, enfin pire que les favelas actuellement que l'on peut voir au bout du monde. Hein. Et c'était aux portes de Paris.
Oui, tout à fait. Il y a même des gens qui appellent ça les années de la boue. Les années de la boue, tout simplement. Moi, je l'ai encore connu, ces bidonvilles, comme celui de Massis, celui de Nanterre. Mais effectivement, c'était affligeant. Affligeant, c'est incroyable de voir des gens, des êtres humains vivre comme ça, surtout les enfants. Sans oublier la question des femmes, parce que ça, c'est quelque chose de très important. C'est que les femmes, pendant la journée, il paraît qu'elles se regroupaient parce qu'elles avaient peur d'être violées, d'être agressées. Donc, il y avait, sans oublier les rats, il y a des bébés qui ont été mordus par des rats. Mais comment c'est possible de laisser des êtres humains vivre comme ça?
Oui, et la réponse des autorités de l'État et des préfets était de dire il faut les chasser, hein. Et non pas leur venir en aide. Donc effectivement, la municipalité a organisé des campagnes de dératisation, a apporté l'eau, mais tout ça a été long, hein, parce que c'est compliqué aussi à mettre en œuvre. Lors de l'inauguration du monument érigé par l'association des Amis du Plateau, j'ai eu l'occasion de rencontrer des institutrices. En fait, la mairie et plus particulièrement mon grand-père Louis Talamoni avait également aussi recruté des institutrices volontaires qui n'étaient pas nécessairement de formation institutrice, plutôt des femmes volontaires qui ont appris le portugais pour qu'on puisse aussi créer des écoles, hein, et pouvoir et qu'ensuite les enfants qui vivaient dans le Dibonville, une fois qu'ils savaient lire et écrire en français, pouvaient ensuite intégrer les écoles classiques de la ville. D'autres actions qui paraissent un peu, qui peuvent paraître dérisoires, mais qui sont essentielles quand on vit dans ces conditions, comme vous le disiez, au milieu de la boue, dans des conditions matérielles épouvantables. Comme vous le savez, à l'époque, les quarts de ramassage étaient souvent municipaux. Donc, il avait été décidé que trois soirs par semaine, après que les quarts de ramassage municipaux aient fini les transports scolaires, ils repartaient, sur ordre de la mairie, bien sûr, hein, sur leur temps de travail, ils repartaient au bidonville, et là, ils emmenaient femmes et enfants au bain public. Puis qu'ils pourraient appeler aussi dans le contexte, à l'époque, toutes les maisons n'avaient pas nécessairement, les maisons et les appartements n'avaient pas toutes de salles de bain. Donc, il y avait aussi dans toutes les villes des bains publics, hein, des bains douches publics. Et donc ça, c'est aussi une façon de pouvoir aussi essayer d'améliorer les conditions d'hygiène du bidonville.
Oui,
donc c'était un travail extrêmement long.
Sans oublier, Madame Talamoni, sans oublier également que même la mairie, votre grand-père, l'a même organisé, a pris des enfants pendant des colonies de vacances. Il y a eu tout un tas de choses, c'est très important. Alors, je rappelle, vous allez intervenir à partir de 11h, justement, dans cette journée d'amitié France-Portugal, journée de solidarité entre les peuples. Ce sera au 14 rue Guitard. Écoutez, je vous remercie d'avoir été en direct avec nous, et à propos du monument en hommage à Louis Talamoni, il a été inauguré au parc, il y a toujours, au parc du plateau de Champigny. L'inauguration a eu lieu le 11 juin 2016. Merci bien. On se donne rendez-vous dimanche prochain, alors, à Champigny.
Merci beaucoup. À dimanche prochain.
Merci, merci bien. Bon, on revient dans les studios. Alors, je ne sais pas si quelqu'un va faire un commentaire par rapport à ça.
Je veux bien, parce que Virginie a pu rappeler la situation particulière de Champigny. C'était dans le quartier du plateau, entre 12 000 et jusqu'à 15 000. Habitants qui vivaient dans ces conditions extrêmes de pauvreté dans le bidonville. C'est une histoire qui a marqué durablement notre ville. C'est des enfants qui ont grandi, qui ont cette mémoire aujourd'hui dans la ville et que nous veillons à faire vivre. C'est pour ça qu'on organise cette conférence, parce qu'on veut alerter sur la question que ce qui avait été possible dans le passé doit pouvoir l'être demain, c'est-à-dire l'intégration, y compris des populations qui sont aujourd'hui dans des bidonvilles qui se reforment en Île-de-France. Il faut savoir que les maires communistes à l'époque, parce qu'il n'y avait pas que le maire de Champigny, ils étaient nombreux à être confrontés à cette situation, se battaient contre l'État, comme ça a été dit, et c'était pas toujours très facile à faire, parce que électoralement, il y avait du racisme qui existait déjà. Il y avait déjà du rejet, ils étaient pas accueillis à bras ouverts, contrairement à ce qu'on entend parfois. La France n'a pas accueilli à bras ouverts les Portugais.
Ils avaient besoin de travailleurs.
Les patronats avaient besoin de travailleurs, mais par contre, les conditions étaient extrêmement rudes, et de travail, et de protection sociale, et de logement. Et Dominique Anneau nous expliquait, avant son décès bien sûr, qu'il y avait eu des solidarités, notamment des catholiques, des chrétiens de gauche, d'Emmaüs, qui avaient organisé un hôpital dans le bidonville pour pouvoir soigner les gens, etc.
D'ailleurs, Dominique Adnaud, c'est lui aussi qui a aidé qu'aujourd'hui, il y a une maison du Portugal à Champigny, on la doit à Adnaud. Alors, Daniel Pomplone, tout à l'heure, avec la petite fille de Louis Talamoni, j'ai dit que cette immigration dite économique, en réalité, c'est une immigration politique, c'était la misère, la répression, etc., qui a fait que des centaines de milliers de Portugais ont cherché du pain en France, non?
Oui, bien sûr. Donc, quand on parle de fascisme, c'est pas que la question de, quand on parle de la dictature, c'est pas que la question de la liberté de parler, la liberté de communication. Le fascisme vient avec un paquet bien grand. Donc, par exemple, la misère au Portugal. Donc, nous avons au Portugal dans les années 50, 60 et 70. Donc, les personnes qui viennent du champ pour habiter à la cité ou qui viennent du champ pour habiter à l'extérieur de Portugal, France, notamment le France, naturellement, et Luxembourg, mais partout un peu dans l'Europe. Et après, ça, c'est une question. Donc, les personnes. Ça, c'est une conséquence directe du fascisme. Donc, la corruption de l'État, ça vient du fascisme. Il n'avait pas aussi l'école. L'école publique n'existe que juste en quatrième année, l'équivalent en France au CO2.
Et encore, les filles, les jeunes filles, souvent n'allaient même pas à l'école.
C'était pas uniquement l'école. Les garçons. Non. Okay. On parle aussi de la santé. Il n'avait pas le service national de santé. On parle aussi du droit à grève. Il n'avait pas le droit à grève. On parle aussi de le droit aussi d'émigrer. Et je reviens à la chose que Julien vient de dire et que Virginie vient de dire. En fait, le droit d'émigrer, il n'existe pas pendant le fascisme. Et donc, au Portugal, il y avait beaucoup de pression pour l'État français et le luxembourgais, etc., ici à l'Europe, pour faire la vie le plus difficile aux immigrants portugais pour qu'ils regressent à chez eux. Et donc, l'État français, en général, naturellement, et ça, naturellement, c'est pas écrit, mais on voit, n'est pas aidé, comme je viens de dire, complètement le français. C'est les communistes, les personnes de gauche, peut-être les catholiques, les Maoïstes, qui ont fait localement les choses qu'ils peuvent faire. Et l'histoire que Virginie vient de conter aussi, de la pression de l'État, de la préfecture, etc., ça c'est la vérité. Donc, il y a une lutte constante entre les communistes et les autres, les forces de plus de droite, qui ne veulent pas que les Portugais restent ici, qui ne veulent pas que les Portugais sont le droit de vivre une qualité de vie minimale.
Ouais, pareil que les autres, oui. Mais, Daniel, oui. Si on peut avancer un petit peu dans le temps. Mm-hmm. Je parle de 2008, la fameuse crise économique. Bon. Mm-hmm. Et ce prime, bon, on ne va pas revenir là-dessus. On a eu un premier ministre, Pedro Passos Coelho, pour ne pas le nommer, qui a dit aux étudiants, bon, partez parce que le pays n'a pas de conditions pour donner des emplois. Il a dit, professeurs, partez parce que, bon, cherchez du travail ailleurs. C'est-à-dire, bon, on voit les années 60. Et en 2008, donc 40 ans, 40 et quelques années après, là où on dit, bon, partez, parce que le pays ne peut pas... C'est un retour de l'histoire, c'est incroyable ça, non?
Oui, donc je suis une de ces personnes. Donc je suis immigrée en 2008, exactement. Oui, ça c'est un peu incroyable que le Premier ministre, il a quitté son pays, il a dit, ok, vous partez, allez-y. Fais votre vie parce qu'ici il n'y a pas plus place pour vous. De cette façon, ça c'est le contraire du fascisme parce que le fascisme ne veut pas qu'on émigre.
Oui, non, mais.
Mais c'est pas bon aussi, hein. Donc nous avons cette en France particulièrement cette immigration de les années 1960 et après maintenant de 2010, c'est une grande vague d'immigration. Ce sont des immigrants. Qu'il y a deux perfils qui sont un peu plus différents de 70. Nous avons aussi encore les femmes aménagées, les pauvres, les boulangers, etc. Mais nous avons aussi on appelle la génération très qualifiée ou qualifiée, qui sont personnes avec un master ou avec un diplôme d'ingénieur en France, équivalente. Et donc, ce sont des personnes qui viennent de l'université, mais que le travail qu'ils trouvent, c'est très précaire. Avec un très bas salaire et qui ne donnent pas les perspectives d'un futur.
Ils n'ont même pas d'habitation, ils sont obligés de rester chez les parents.
Oui, c'est ça.
Mais alors, justement, habitation, santé,
et habitation, habitat. C'est-à-dire ces trois choses qu'aujourd'hui au Portugal c'est impossible. C'est-à-dire la génération portugaise aujourd'hui, la nouvelle génération, on se trouve confronté avec ce qui se passait il y a 50 ans en arrière, sauf que maintenant on a la liberté de parler.
Oui. C'est ça.
Bon, c'est important, la liberté, attention. La démocratie, c'est fondamental.
La démocratie, c'est fondamental, mais la vérité, ça, c'est que ça, c'était pas le suffisant pour faire le pays avancer comme il faut. Donc, on peut parler, mais la vérité, c'est que le gouvernement des 20 ans, ou 30 ans, ou dès 1990, On fait diminuer plus en plus petit les droits de travailleurs, par exemple. Mm-hmm. On fait que la libéralisation du pays, donc la vente de la grande entreprise, etc. Et ça, tout ça, on aussi, par exemple, le loi de l'immobilière et de la rente qu'on vient de parler de la question de l'habitation.
Le loyer qu'on paye.
Oui. Et de loyer, pardon, c'est pas la rente, pardon, oui, c'est
et
le
rente,
loyer.
Et
aussi la question de la santé, ça c'est aussi moins et moins, avec moins et moins fonde. Donc, on voit qu'il y a peu de perspectives d'un futur à l'aise.
Mais Daniel, je m'excuse, je vais vous couper, parce que ça faisait partie des acquis du 25 avril.
Oui.
Parce qu'il y a plein de choses. Mais Julien, justement, alors, en France, on parle beaucoup des acquis du Conseil national de la résistance, CNR. Mmh. Justement, si on compare un peu avec tout ce qui est transpassé au Portugal, finalement, un certain nombre d'acquis qui sont en train de disparaître ici en France.
C'est malheureusement ce qu'on est en train de vivre. Bon. C'est-à-dire que dans toute l'Europe, quasiment au niveau mondial parfois, mais en Europe en tout cas, les directives européennes, la politique qui est menée par les gouvernements.
Bien que, je m'excuse, là je vais vous interrompre.
Pardon.
Mais, par exemple, ce qui concerne le transport ferroviaire, il n'y a aucune directive européenne qui oblige à privatiser le transport ferroviaire, attention.
Hein. Bien entendu, j'ai parlé des directives, mais aussi de l'action des gouvernements qui parfois se cachent d'ailleurs derrière des directives ou derrière des orientations européennes, mais qui le soutiennent en réalité. Bref, il y a un jeu de dupes pour tromper les peuples, mais de fait, on constate partout une politique à peu près similaire de privatisation, de libéralisation de toute l'économie et qui produit à peu près partout le recul, la destruction de services publics, leur démantèlement, leur manque d'efficacité, le manque de moyens. Et de fait, les peuples en souffrent pour leur accès à la santé, au logement, ou pour les transports publics, ou pour tout un tas de domaines de leur vie. Et c'est des sociétés injustes et à double vitesse qui se mettent de plus en plus en place. Les peuples sont sidérés face à ça, en colère, et ne trouvent pas aujourd'hui le moyen de s'exprimer autre, pour l'instant, que le rejet à travers un vote de colère de l'extrême droite. Mais vous avez raison de souligner qu'effectivement, en France, ce sont bien les acquis de Conseil national de la résistance qu'on pourrait comparer aux acquis qui ont été gagnés à partir du 25 avril.
Alors justement, alors je vais y revenir. 50 ans après, le 25 avril, heureusement que le peuple est sorti dans la rue parce qu'ils n'ont pas écouté la demande du mouvement des forces armées, restez chez vous. Autrement, les choses ne seraient pas passées comme elles sont passées tout au moins jusqu'au 25 novembre 1975. Bon, c'est une autre affaire. Alors, 50 ans après, justement, Julien Léger, vous faites la référence à l'extrême droite. Le cas, bon, en France, 80 députés d'extrême droite ici à l'Assemblée nationale. En Allemagne, dans le Bundestag, plus d'une centaine de députés d'extrême droite. Au Portugal, Daniel, en 2019, il y avait 2 députés d'extrême droite. En 2022, 12. Et le 10 mars dernier, 2024, 50 députés d'extrême droite. Et la question est aussi pour Julien Léger. Ici, on annonce des sondages par rapport aux européennes, et l'extrême droite, ensemble, dépasse les 40%. Alors, on va commencer par le Portugal. Daniel, qu'est-ce qui se passe dans quel pays? C'est vrai qu'il y a déjà 2 générations après le 25 avril, mais...
Qu'est-ce qui se passe? C'est que le gouvernement n'a pas répondu aux problèmes des personnes. En fait, les successifs gouvernements ont fait encore pire et encore plus difficile de vivre au Portugal, d'avoir l'espoir d'une vie mieux. Donc, les personnes ont lassé de voter au Portugal. On a la grande abstention.
A augmenté.
Et maintenant, il y a un transfert de vote de l'abstention pour l'extrême droite. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très difficile, c'est parler avec les personnes, expliquer que tous les partis ne sont pas la même chose, expliquer par exemple, le mot au Portugal, c'est le contre la corruption, mais je pense que la France est le même slogan. Et on voit qu'en fait, les personnes qui sont dans ces partis, le Chega et la Rassemblance nationale, sont en fait très corruptes et ils ont beaucoup de problèmes à la justice.
Ils sont tous contre les immigrés.
En France, ils sont plus intelligents que ça, par exemple. On voit la campagne du Chega en France, pour les immigrants, au pouvoir, pour le dernier législatif, ils ne parlent pas contre les immigrants, parce qu'ils savent que les Portugais sont immigrants.
On va rentrer là-dedans, on va refaire un petit peu la campagne électorale, mais attention, il faut voir les mesures qu'ils proposent. Mais enfin, alors, Julien Léger, c'est une question avec laquelle on est confronté, justement par rapport à cette extrême droite. Bon, elle a fait son lit sur l'immigration, c'est le bouc émissaire, et on revient un petit peu à l'origine, bidonville Champigny, avec cette immigration portugaise en masse. La France a ouvert les frontières, hein. Tout ce qui a été moins de 35 ans, etc., pouvait rentrer en France, même sans passeport. Bon, c'est une autre histoire. Alors, montée d'extrême droite ici, quelle réponse peut-on donner?
Alors, forcément, ça nous produit une inquiétude. C'est bien de rappeler que 50% des Portugais qui donc étaient dans les bidonvilles étaient rentrés de manière illégale au départ en France. C'est bien de s'en rappeler au moment où les discours xénophobes contre d'autres populations.
Julien, je suis rentré en France, ouais. J'avais une carte d'identité portugaise, pas plus. J'étais jeune, hein, j'avais une adresse, allez, tu rentres, tu vas travailler. C'est aussi simple que ça.
Il y avait effectivement une demande du patronat pour travailler, on avait fait un appel. Et puis c'est vrai que les chiffres disent que 50% d'entre eux étaient entrés illégalement, mais pour autant... ils ont rejoint la communauté française, nationale, et ils sont aujourd'hui intégrés. C'est la preuve que, justement, il faut se méfier des discours qui sont excluants. C'est vrai que notre ennemi aujourd'hui, c'est le manque d'espoir, le fatalisme. L'idée qu'on ne peut plus rien changer, et que de toute façon, la seule chose qu'on peut changer, c'est en envoyant tout en l'air, tout casser. Cette attitude-là, électorale y compris, elle nous amènera effectivement à faire des votes qui sont complètement pas raisonnables et qui vont nous amener dans une grande difficulté, une grande violence. Nous, au Parti communiste, nous essayons de prôner quelque chose qui peut paraître comme étonnant quand on parle des jours heureux, c'est faire renaître une période d'espoir qui a été le Conseil national de la résistance après la Grande Guerre, la Deuxième Guerre mondiale, après le nazisme et après la barbarie. Il a fallu que des gens inventent le programme du futur et qui étaient les jours heureux. Et nous, on se réfère à ça. C'est aujourd'hui, on pense qu'on est dans une situation proche. Il faut commencer à réfléchir réellement à avoir des jours heureux. Il ne faut pas que pour nos enfants, on leur propose quoi comme alternative? Chômage de masse, destruction des services publics, violence, guerre qui arrive. Ça peut pas être ça à l'horizon, et c'est pour ça que nous, on y met toute notre force pour essayer de défendre autre chose.
Et d'ailleurs, à la base, je pense que c'est le pouvoir local, hein. On voit ça au Portugal avec sa mairie qui mène un travail essentiel, en France aussi, parce que c'est la base. Les seuls élus qu'on peut attraper, c'est le cas de le dire dans la rue, sont les maires. Je suis président de Cam, le seul qu'on peut le... C'est bon, mais on pourrait continuer, on va pouvoir continuer cette discussion, justement, dimanche prochain. Alors, je rappelle, le matin à 11h, dimanche 21, donc l'histoire de la quai des Portugais à Champigny, et également l'action de la municipalité communiste de Luís Talamoni. Après, à 2h30, très important, il va y avoir un temps culturel, mais aussi... à boire et à manger, c'est très important. Alors, le mieux, c'est de réserver. J'ai un numéro de téléphone, le 06 84 45 58 37. C'est celui-là, le bon. Bon, enfin, sans oublier, pastéis de bacalhau, pastéis de nata. Bon, hein, Daniel, ça nous met du sucre à la bouche, tout ça. Et après, à partir de 14h, là, c'est 25 avril 74, ses conquêtes, son héritage pour le Portugal, comme pour l'ensemble du monde progressiste. Alors, présent, Álvaro Núñez, qu'on aura l'occasion dimanche prochain de parler avec lui sur le 25 avril, et lui, il a commencé à militer en 1962. Donc c'est quelqu'un qui a connu, qui a eu un passé, il a dû vivre dans la clandestinité, etc. Il a souffert dans la peau. Qu'est-ce que c'était la répression de fascistes et également la police politique lapide, et ça, il ne faut jamais l'oublier. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pites, ils n'ont jamais été jugés, au contraire. Même on leur a rendu la carte d'identité et le permis de conduire. Bon, c'est une autre affaire. Bon, une autre affaire, peut-être pas. Alors, il y a parallèlement, dans ces débats, il y aura le membre du comité central du PCF, responsable de la commission internationale, c'est comme ça, Vincent Boulay. Donc là, je pense qu'on pourra continuer la discussion et voir les deux points de vue. Quelqu'un qui a souffert dans la peau, le régime fasciste et le regard d'un communiste français, mais lui, il a un autre vécu, je l'ai.
Exactement. Ça sera une belle occasion de se rencontrer, de confronter, effectivement. Et effectivement, tout à l'heure, on ne l'a pas dit, mais aujourd'hui encore, il n'y a pas si longtemps que ça, des mairies communistes dans le Val-de-Marne, comme Ivry, ont essayé d'apporter un maximum d'assistance à une population qui sont les Roms. Et avec un peu le même système, ils ont essayé de les intégrer dans des logements, ils ont essayé de leur apporter la santé, l'éducation, les intégrer en classe. Donc, vous voyez, quelque part, l'héritage de Bidonville de Champigny, et il continue d'être une réalité à devoir s'affronter aujourd'hui.
Hein. D'ailleurs, une petite référence à José Vieira, qui a fait plein de documentaires sur la communauté portugaise. Lui, il a vécu, il avait 7 ans au Bidonville de Massy. Un de ses derniers documentaires, c'est le bateau en carton. Justement, c'est la vie des Roms, ce que les Portugais, faut pas qu'on ait la mémoire courte, hein, Daniel. Donc, aujourd'hui, c'est d'autres qui vivent. Et justement, pour terminer, je m'excuse auprès de Julien, mais Daniel, talvez um apelo para participar nesta jornada do dia 21, e porque é importante de se lembrar daquilo que se passou e defender um certo número de direitos e coisas importantes, a começar pela democracia.
Portanto, eu estou extremamente entusiasmada com a iniciativa, acho que vai ser muito interessante e muito dinâmica, portanto vamos ter as exposições, vamos ter os debates e é muito original, portanto vamos ter a parte local até à parte internacionalista, portanto há várias escalas que aqui estamos a falar e vamos falar do passado, obviamente, vão estar presentes camaradas que vieram para aqui clandestinos, portanto o Albano esteve clandestino, portanto foi militante antes do 25 de Abril, vão-nos contar as suas histórias e a sua perspectiva, mas também vamos ter uma perspectiva no futuro e do presente, o que se passa hoje em dia na Europa, a questão da extrema-direita crescer, como a combater, se é que há a discutir as semelhanças e as diferenças entre a extrema-Europa em França e em Portugal, e mais que tudo combatê-la, não é? Porque não queremos voltar ao mesmo, voltar para trás, voltar ao fascismo, voltar à miséria, voltar à pobreza, ao isolamento, é algo que eu não quero para mim, para os meus filhos, nem para os filhos de ninguém.
Daniel, muito obrigado. Merci également, Julien Léger. Donc, nous sommes au rendez-vous dimanche prochain, le 21, à partir de 10h30, 14 rue Guitard, à Champigny-sur-Marne, à 50 mètres du studio 66. C'est pas très loin de la rue de la République, tout ça?
C'est pas très loin, effectivement. Donc,
d'accord.
Ça a une résonance.
Bon. D'accord. Bon.
Et la rue Louis Calamoni.
Tout à fait, c'est pas loin non plus de la guinguette, etc., etc., etc. Bon, non, je connais le coin, j'ai vécu pas mal d'années là-bas. Bon, merci à tous les deux, et comme on dit en portugais, 25 d'abril sempre.
Fascismo, nunca mais.
Merci, obrigado. E nós voltamos dentro de uns instantes. Et on revient au direct de Passage à Niveau, ce dimanche 14 avril, l'émission, je rappelle, avec rediffusion dans la nuit du mardi à mercredi à partir de 0h, sans oublier le podcast. Et tout à l'heure, j'ai oublié, quand on parlait des bidonvilles, Portugais à Champigny, le temps des baraques de Marie-Christine Volovitch Tavares a été publié par Autrement. Ça date de 1995, mais il est toujours d'actualité. D'actualité également, et de l'actualité qui passe par le Grand Palais éphémère. Romain Water, bonjour et merci d'être sur Radio Alpha.
Bonjour à tous.
Alors, c'est le cas de dire, Maria et Salazar reviennent.
dans la mesure où il y a une réédition, c'est en librairie depuis le 10 avril, sauf erreur de ma part. Donc, c'est très important que ce livre ressorte et qu'il soit réédité, dans la mesure où bon, on s'apprête à fêter le 50e anniversaire du 25 avril, et votre ouvrage, votre bande dessinée, elle est là, ça touche plein dans le mille, toute la problématique soulevée par votre livre.
Oui, je suis ravi que le bouquin soit à nouveau mis en avant à cette occasion. Il y a un lien direct hein, entre l'émigration portugaise et la révolution des œillets. C'est ce que j'ai en partie essayé de montrer dans ma bande dessinée, qui se consacre d'abord au parcours de Maria, hein, qui est une grande amie de ma famille, qui était à l'origine la femme de ménage de mes parents, et avec son mari Manuel, ils ont un parcours très classique, arrivé à la fin des années 60 en France, en Île-de-France. Et donc c'est d'abord leur témoignage que je mets en scène, mais j'essaye aussi, à travers une sorte d'enquête, d'essayer de recoller un peu tous les morceaux du puzzle, de comprendre cette dictature, de comprendre les liens entre l'émigration et puis la révolution des œillets.
Mmh. Alors, Roland Leterre, tout est parti, finalement, c'est vos parents qui vendent leur maison familiale de Champigny-sur-Marne, et vous êtes rendu compte, finalement, vous avez côtoyé Maria pendant des années et des années et des années, il y a des questions qui ne sont jamais venues à la tête, c'est savoir, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle fait, elle se fait le pas. Elle fait pas. Finalement, c'est un petit peu la condition des Portugais en France. On les a côtoyés pendant des décennies et finalement, on ne sait pas qui ils sont, pourquoi ils sont venus en France. J'ai l'impression que vous êtes parti à la découverte.
Mais exactement. C'est vrai que le schéma familial est assez classique. Vous l'avez dit, la BD est sortie initialement en 2017, donc j'ai déjà rencontré pas mal de gens autour de ce livre. Évidemment, je suis ravi que ce livre touche avant tout la communauté portugaise en France, mais j'ai aussi beaucoup finalement de lecteurs qui ont le schéma de mes parents finalement, et qui ont aussi eu une femme de ménage et souvent d'ailleurs, comme c'est le cas dans ma famille, des forts liens d'amitié hein, se sont créés et pourtant on connaît souvent très très mal leur histoire personnelle et la grande histoire de Portugal, et c'est vrai que moi c'était le point de départ, c'était pour moi, il y avait une incohérence et surtout que j'ai vécu dans le Val-de-Marne, à Saint-Maur-des-Fossés puis Champigny-sur-Marne, entouré de tout un tas d'amis d'origine portugaise aussi, et je trouvais ça très paradoxal de ne si peu connaître toute cette histoire, de ne pas l'étudier à l'école. Voilà, il y avait pour moi quelque chose de très paradoxal, et ça a été le point de départ, et c'est pour ça que j'ai commencé à interroger Maria, qui s'est tout de suite prêtée au jeu, et j'ai été ravi de qu'elle puisse s'impliquer comme ça dans cette histoire.
Alors, Robin Water, vous connaissez pas et quelle était la vie de Maria, mais vous adorez leurs petits plats, surtout, je pense que c'est bonne mémoire, les frites.
Oui, les frites. Ah ben, Maria, elle est arrivée dans... moi, elle me connaît depuis tout petit. J'étais bébé quand elle est arrivée dans ma famille. Et on a grandi avec ces 4-5 anecdotes sur sa jeunesse qui évidemment était très différente hein, de la nôtre. Et puis c'est sa culture qu'elle a essayé aussi par petites touches comme ça de nous amener j'allais dire au quotidien. Alors on la voyait pas au quotidien, mais chaque semaine et on avait des petits plats. Alors les frites, c'est pas typiquement portugais,
mais elles étaient
bonnes. Il y a souvent des lecteurs qui me demandent la recette des frites de Maria. Mais c'est vrai que on a tous, mes frères et sœurs et moi, des souvenirs culinaires de choses qu'elle amenait. Il y avait souvent une touche portugaise, la bandade de morue, voilà, il y a des plats comme ça. Et petit à petit, elle nous a amené une part de sa culture qui fait partie un peu de nous maintenant. Hein.
Alors, quelque chose qui faisait partie aussi de la vie de Maria et de son mari, c'était Radio Alpha. Vous faites référence aussi?
Et oui, oui, c'est vrai qu'il y a, il y a une ou deux cases qui fait référence à Radio Alpha, puisque c'était une radio qui avait son importance dans ces années-là. C'était une radio qui permettait aux Portugais de rester en contact avec leur Portugal, et que ce soit dans leur quotidien, dans leur moment de pause au travail, etc. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de montrer, l'importance de ce médium pour les Portugais de France à ce moment-là.
Alors, je rappelle, Maria Salazar, Robin Walter, publié par Déron dans l'eau. L'eau, c'est L, apostrophe O. Il faut pas se tromper. Alors, Robin Walter, vous avez été...
Et pardon, j'en profite aussi pour dire que l'album est aussi disponible en
langue portugaise. Oui, voilà.
En langue portugaise, aux éditions Paul Vaux.
Paul Vaux. Voilà. Donc, ah oui, c'est vrai. Je l'avais noté quelque part et j'ai oublié de le signer. Donc, ouais. Alors, et si vous commandez le livre, faites-le dans une librairie, s'il vous plaît. D'accord?
S'il vous
plaît. Pourrez l'avoir dans 24 heures, 48 heures, tout au plus après, et on peut attendre. Je déteste les plateformes, je l'assume. Bon, remontaire. Le stand C17, vous allez y retourner cet après-midi ou pas?
Exactement. J'étais depuis vendredi. Hier, et puis encore cet après-midi, où je suis ravi de rencontrer tout un tas de personnes d'origine portugaise, pas que, mais c'est vrai que là, avec la ressortie du livre, il est à nouveau mis en avant, et je suis ravi d'avoir à nouveau ces échanges sur toute cette période qui m'intéresse, et puis toute cette communauté qui m'est très chère.
Alors, sans oublier d'autres ouvrages de bande dessinée, parce que Von Braun, toute la série sur le foot, etc. Vous avez c'est assez varié votre travail.
Oui, alors finalement, ce qui m'intéresse, c'est le XXe siècle, mais soit par une entrée personnelle, comme j'ai pu le faire avec Maria, ou comme j'ai pu le faire avec mon grand-père, l'histoire de mon grand-père pendant la Seconde Guerre mondiale, ça c'est Casette Dora. Soit par le personnage Von Braun, la BD sur Von Braun que vous citiez, est aussi lié à cette histoire sur Dora, puisque Von Braun, c'est le plus connu de ces ingénieurs nazis qui a permis d'amener les Américains sur la Lune. C'est le père des fusées modernes, et en fait a un passé beaucoup plus sombre de ce qu'on imaginait, et qui est lié directement à Dora, le camp où s'est retrouvé mon grand-père. Mais ce XXe siècle aussi m'intéresse beaucoup en y entrant par le sport. Voilà, j'aime beaucoup l'histoire du sport, et donc j'ai en effet une BD sur le foot qui s'appelle Prolongation. Et chaque mois aussi, je fais une petite BD d'une vingtaine de cases où j'essaie de coller un petit peu à l'actu sur un site internet qui s'appelle Ernest Mag. ErnestMag.fr, mais bientôt sort un recueil de plusieurs de ces histoires. Donc c'est souvent des portraits de footballeurs pour comprendre un épisode de l'histoire ou l'histoire de, par exemple, de la sélection allemande sous Hitler, l'histoire du foot féminin et finalement raconter l'émancipation de la femme. Et là, la prochaine, c'est pour ça que je permets d'expliquer tout ça, là, celle que je suis en train de terminer et qui devrait paraître bientôt, elle est liée à la révolution des œillets, au 50e anniversaire, et c'est le lien qu'avait Eusebio avec cette histoire. Donc c'est sur Eusebio, comprendre un peu la place qu'il a occupée dans les stades Novo, et à la fois symbole et victime finalement de Salazar. Voilà, c'est un petit peu tout ça que je raconte dans cette petite BD à sortir la semaine prochaine ou dans deux semaines.
Alors Robin, il faut pas nous oublier à ce moment-là, parce qu'il faut qu'on reparle. Et par rapport aux autres bandes dessinées que vous avez faites sur le foot, on va y revenir aussi dans la mesure où on va avoir l'Euro en Allemagne, voilà, que ça sera bientôt. Merci. Donc, jusqu'à la fin de cette journée de dimanche, au Grand Palais éphémère, stand C17 des éditions des Héros dans l'eau. Et après, un autre rendez-vous, justement, ça va être, si j'arrive à trouver mes informations, j'ai cherché, mais je n'arrive pas. Est-ce que vous avez d'autres rendez-vous avec vos lecteurs, pardon?
Oui, alors avec mes lecteurs du côté de Lyon, un festival de Lyon début juin, Et puis, peut-être que je vais venir pour le 28 avril à Champigny.
Ah, d'accord. Bon, voilà. Alors, vous nous faites signe, on est voisins.
Exactement.
Romain Walter, merci, alors, et bonne continuation. Ce festival du livre, c'est plus un salon du livre. Bon, passons. Merci, à très bientôt.
Merci beaucoup. Et,
au revoir.
Au revoir.
Et non, je vais te dire que je vais nous toucher.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Deuxième heure de passage à niveau, ce dimanche 14 avril, eh bien, il était passé à Doc Lisboa. Il était passé aussi au Festival international de Melgaço. Il a même été projeté à Washington, je continue, j'en passe les meilleurs. Ben, il va arriver à Paris le 21 et le 23 avril, on va y revenir. C'est les mains invisibles.
Elles arrivent. À l'époque, je vivais dans une maison que des amis français, que j'avais connus en mai 68. Cette maison, d'ailleurs, a hébergé par la suite beaucoup de réfractaires et de déserteurs. Et je les ai ramenés, vous pouvez dormir là, etc. Premier réseau auquel j'ai participé, on peut dire informel, n'avait pas le nom de réseau, n'avait pas le nom de comité, mais dans la pratique, c'est ce qu'on faisait. On essayait d'avoir des amis à partir du Portugal, l'Espagne, la France et d'autres pays d'Europe qui puissent aider les jeunes réfractaires et déserteurs à survivre dans ces pays. Moi, j'ai fait l'école primaire politique en mai 68. C'est vraiment les premiers pas en tant qu'activiste. Ce que j'ai appris, c'est de passer inaperçu pour agir.
Ute Santos, bonjour et merci d'être sur Adolfo.
Bonjour Arthur.
Alors, enfin, le Main Invisible arrive à Paris. Bon, c'est vrai qu'il a fait tout un tas de festivals, c'est tout, c'est le parcours normal. Alors, commençons par le titre. Et je pense que le titre a beaucoup à voir avec un extrait de la bande-annonce qu'on vient de passer. Main Invisible. Elles sont invisibles, mais c'est des mains qui travaillent. Et justement, Vasco Martins, on peut dire que c'est lui. Bon, lui, c'est quelqu'un qui est un petit peu, bon, effacé, entre guillemets. Mais lui, il travaille, il parle peu, mais il travaille. C'est un peu le sens de ton documentaire, justement, de montrer une face peut-être cachée ou oubliée de ce qui s'est passé dans l'immigration à la fin des années 60.
Oui, les mains visibles, c'est un titre qui renvoie d'abord au fait qu'on surnomme souvent l'immigration portugaise de l'immigration invisible. Mmh. Alors qu'elle est on ne peut plus visible. Et en plus, c'était aussi une façon de renvoyer en effet à l'action de Vasco, mais pas uniquement de tous ces militants, toutes ces personnes qui œuvrent un petit peu dans l'ombre pour rendre d'une manière générale le monde meilleur. On a tendance à faire des films parfois même militants ou des films qui crée un peu des mythes autour de héros. Et je pense que l'histoire, elle se fait avec beaucoup de petites mains invisibles, comme celle de Vasco, mais comme celle de plein de gens aujourd'hui même.
Voilà. Oui, ben, on pourrait aussi citer Albert Coste. D'ailleurs, c'était le fondateur de Théâtre Baraque. Et pour, entre autres choses, bon, Tin Flows, etc., etc. Mais il y a quand même, une adresse et un nom que c'est fondamental au milieu de tout ça. D'une part, le 15 rue du Moulinet, Paris 13e, et un nom, Thérèse Martinet. Ça, c'est quelque chose, ça a marqué des dizaines et des dizaines de jeunes déserteurs hors frères de l'armée coloniale. Donc, il y a 68 au milieu de tout ça. C'est quelque chose, c'est très important pour se rendre compte de la solidarité qu'il y avait. Et en même temps, c'était, bon, une continuation de la lutte contre le fascisme et contre la guerre coloniale.
Oui, c'est donc en fait le film parle d'un réseau informel de soutien à la désertion, ou en tout cas aux déserteurs qui arrivaient, déserteurs, réfractaires, insoumis, qui arrivaient du Portugal. Et ce réseau s'est structuré autour de Portugais qui étaient déjà établis là, notamment Vasco Martins, qui arrivait un petit peu avant, qui arrivait en 61. Et des Français, des jeunes Français de son âge, et notamment cette Thérèse, qui du coup était propriétaire d'une maison, qui a fini par devenir une maison où il y avait un peu une vie collective avec des Portugais, des Français, des Africains, des gens de diverses nationalités. Et du coup, le film parle un peu de ces relations-là, et je pense que ça renvoie aussi à beaucoup d'autres maisons qui existaient à l'époque, des maisons anonymes et des maisons qu'on pourrait voir aujourd'hui. On pourrait faire le parallèle avec des gens qui aujourd'hui ouvrent leur maison à des migrants qui sont dans la rue, je sais pas, à Stalingrad ou à La Chapelle. Il y a eu beaucoup d'actes comme ça, de solidarité, des actes de personnes complètement anonymes, des gens qui sont pas connus, qui laisseront pas de traces dans l'histoire, mais qui ont fait des choses qui étaient importantes.
Alors justement, à propos des traces de lutte contre la guerre coloniale, lutte anti-impérialiste, parce que la plupart de ces militants étaient engagés aussi dans la lutte anti-impérialiste, la guerre contre le Vietnam, etc. Alors, curieusement, il n'y a que les archives de l'APID qui ont gardé des traces de ces activités anticoloniales.
Oui et non, en tout cas, c'était c'était les plus scrupuleux, c'est-à-dire c'est ceux qui prenaient peut-être le plus de notes, mais il y a quelque chose d'assez paradoxal, c'est que au Portugal, il y a eu une révolution, et du coup, les archives de la police politique, de la police qui surveillait ce que faisaient les opposants politiques, toutes ces archives ont été ouvertes. C'est pas un processus qui est complètement pur, c'est des processus complexes, hein, après une révolution. Aujourd'hui, tout le monde peut accéder à des dossiers de l'APID. Évidemment, pour accéder aux dossiers personnels, il faut avoir l'autorisation de la personne, ou que ce soit la personne elle-même qui aille demander son dossier, mais c'est possible. Donc Vasco peut demander son dossier. Par contre, en France, j'ai demandé son dossier aux renseignements généraux et dans les archives de la police française, et on ne peut pas accéder encore à ces archives. Parce que la France, il n'y a pas eu de révolution entre... Il n'y a pas eu de cassure, on va dire, entre l'État colonial, celui qui a fait la guerre de l'Algérie. Certes, là, il y a une nouvelle république, mais c'est les mêmes archives, c'est le même État jusqu'à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je ne peux pas accéder aux archives. Vasco ne peut pas accéder à ces archives de la police française, parce qu'il y a eu quand même une surveillance de la police française, même s'il était absolument pas une menace, évidemment, pour l'État français. Et par contre, on peut accéder à ces archives au Portugal. Voilà. C'est un paradoxe.
Et d'ailleurs, même les archives diplomatiques, bon, il y a les archives à Aubervilliers, sauf erreur de ma part, du ministère des Affaires étrangères, et même, on a passé à tous les, disons, à toutes les archives. Alors, il y a certain nombre d'interviews, de témoignages, bon, il y a Fernando Cardoso, il y a également Rui Manuel Motta, là, on par ailleurs, là, on part en Angleterre, également en Hollande, parce qu'il y avait un lien entre Paris et les autres réfugiés ou les autres déserteurs dans d'autres pays d'Europe.
Oui, il y avait des liens, pas systématiques, mais en gros, les déserteurs, en tout cas ceux qui partaient pour pas faire la guerre coloniale, sont partis, notamment beaucoup en France, parce qu'en France, il y avait déjà une grosse communauté immigrée, ou en tout cas, ils accompagnaient tout ce flux de migrants. Ils en faisaient partie. C'est-à-dire qu'il est impossible de faire la différence en France entre quelqu'un qui est parti pour pas faire la guerre ou autre. Mais ils sont partis aussi dans de nombreux autres pays européens, selon soit l'importance, la facilité d'immigrer là-bas, l'importance de la communauté immigrée qui était déjà là-bas, comme par exemple au Luxembourg, soit parce que dans des pays où on les accueillait plus facilement, on leur donnait plus facilement le statut, par exemple, de réfugiés politiques, comme en Suède ou comme aux Pays-Bas. Et après, il y avait des réseaux, des fois formels, c'est-à-dire des partis, des micro-partis et autres, ou des réseaux informels, des gens qui se connaissaient. C'est toute une génération qui est partie. Donc on connaît des copains de l'école qui sont partis aussi, mais l'autre est dans un autre pays, est en Angleterre, l'autre est aux Pays-Bas, l'autre est en Suède. Et au fur et à mesure, il y a un peu une opposition à la dictature et à la guerre coloniale qui se constitue dans ces milieux-là. Et donc les relations humaines, on va dire naturelles entre les gens, ça sert de socle à la création d'organisations plus politiques, quoi.
Alors, en ce qui concerne les images, il y a plusieurs choses. Il y a des images qui ont été tournées par toi-même au Portugal. Et par rapport à ça, il y a quelque chose d'extraordinaire. Bon, c'est deux monuments. Le monument aux combattants dans Outre-mer, entre guillemets. Le monument des découvertes. Bon. Et en même temps, le Portugal des tout petits, Portugal, Peninsula, à Coimbra. Et donc, au milieu de tout ça, c'est quoi? C'est un clin d'œil. Bon, regarder un petit peu comment on faisait dans le temps et savoir où on est. Pourquoi avoir des images de ces deux monuments et ce Portugal des tout petits?
Bah, parce que le paysage au Portugal, il est très fortement marqué par le colonialisme. C'est les monuments, mais ça pourrait être, on pourrait parler aussi des jardins. Tu vois, dans le film, tu as plusieurs jardins qui sont filmés, et les jardins de Lisbonne, des jardins avec des plantes tropicales, c'est des jardins qui sont marqués par les découvertes, entre guillemets, et par le colonialisme. C'est-à-dire que les jardiniers, les urbanistes, les urbanistes de Lisbonne ont décidé de créer des jardins de cette façon-là pour rendre compte de l'empire colonial. C'est pas un hasard. Voilà. Excuse-moi,
oui, d'ailleurs, tu voulais dire quelque chose. Non, mais je suis né pas très loin du jardin colonial. Blay. Donc voilà, je sais exactement qu'est-ce que ça veut dire. Alors, le film, il démarre, si mes souvenirs sont exacts, la manif du 1er mai 1974, et tout de suite après, on voit la couve, des libérations du 2 mai. Donc c'est très important de démarrer par là, ces mains invisibles.
Bah, il y a peu de traces de ce moment-là, c'est-à-dire du post 25 avril, il y a peu de traces dans les médias en France. C'est-à-dire que les médias français vont suivre des fois heure par heure ce qui se passe au Portugal. Ils envoient des journalistes sur place. Par contre, les immigrés, il y a relativement peu de choses qui sont faites autour des immigrés, à part peut-être des fois des réactions. On leur demande un peu des réactions, mais c'est des choses qui ont même pas été gardées dans les archives. Mais on montre pas du tout que c'était aussi des gens qui étaient politisés au sens large. Je dis pas qu'ils faisaient partie d'un parti, quoi. Et du coup, le seul moment où on a vu un petit peu des choses dans les médias, c'est la manifestation du 1er mai à Paris. Qui est découpée un peu en deux. Il y a une manifestation dite des gauchistes un peu le matin et une manifestation plus générale l'après-midi. Dans les deux manifestations, il y a des Portugais, voilà, et on filme des Portugais, on prend des photos de Portugais, et c'est là où je pense que même la société française prend, d'une manière générale, prend conscience qu'il y avait des gens qui étaient organisés politiquement, ou en tout cas que c'était pas juste une main d'œuvre, mais qui c'était une main d'œuvre qui avait, c'était des gens qui avaient une pensée politique derrière. Mmh. Et donc je commence le film et je clôt le film un peu par ça, au sens où au début on se demande qui sont ces Portugais. Et après le film, j'espère qu'on sait un peu, qu'on comprend mieux la situation et pourquoi ils étaient dans cette manifestation-là.
Voilà, sans oublier aussi les grèves de chez Renault, hein, chez Renault. Donc ça, c'est de façon, il y a aussi un clin d'œil, la grève chez Renault. Et là, Vasco Martins, on revient à lui, à Vasco Martins, justement, parce qu'il a été aussi délégué syndical chez Renault. Alors, je disais, bon, après Doc Lisboa, après Melgas, après tout un tas de trucs, et le film continue à être projeté à gauche et à droite, ça y est, on l'a à Paris, dimanche 21, elle sera à 15h à la MJC des Hauts de Belleville, qui se trouve au 43 rue du Borrego. Borrego, en portugais dans le 20e, le métro plus proche, le télégraphe au Saint-Fargeau. Bon, ça monte les escaliers mécaniques, c'est super. Mais enfin, alors il faut dire que avec cette MJC de Belleville, c'est la projection est organisée aussi en partenariat avec Mémoire Vive.
elle est organisée avec Mémoire Vive et elle est cette projection fait partie d'un cycle de d'événements qui sont liés au ce qu'ils appellent les résistants immigrés à Paris. C'est dans le cadre de, disons que ça fait référence à Missak et Méliné Manoukian qui sont rentrés au Panthéon. Et d'ailleurs, au-delà de la projection, il y aura une petite exposition qu'a organisée la mairie de Paris sur la vie de, je crois, seulement de Missak Manoukian. Mmh. Voilà.
Alors, le 23 avril, là, on part à la contemporaine, à Nanterre. Ça, c'est organisé dans le cadre d'événements en lien avec les 50 ans du 25 avril. Donc là, ce sera à 18h, un public complètement différent. Et c'est important, justement, les étudiants, surtout, moi, je pense que ça s'adresse aux étudiants. Il y a un département de portugais à Nanterre très important. C'est important de passer... disons, je dis pas le relais, mais en tout cas que cette génération-là se rende compte qu'est-ce qui s'est passé il y a 50 ans en arrière, puisque quand on voit ce qui se passe, c'est passé au Portugal, 50 députés d'extrême droite, et qu'est-ce qui va se passer en France, il se passe dans d'autres pays européens, c'est important de rappeler un certain nombre de principes et rappeler le besoin de la démocratie.
Oui, le film, tu parlais des projections du film. Le film, il a été projeté dans trois festivals au Portugal, mais il a pas mal circulé dans des projections, enfin, dans des lieux culturels, dans différentes villes du nord au sud du Portugal, et aussi dans des écoles. Il a circulé déjà dans 4-5 lycées, parfois avec plusieurs projections, et du coup, on organise des débats. Et le retour du public lycéen est très riche. Très riches, ils sont beaucoup plus vifs que nous et ils comprennent très bien la thématique, notamment parce que c'est une génération qui est plus métissée, avec notamment des gens qui sont issus des anciennes colonies portugaises. Et c'est vrai qu'on travaille là à organiser des projections pour le reste de l'année en France dans des lycées, plus que l'université, mais dans des lycées, parce que je pense que c'est un public qui est intéressé notamment par cette question coloniale, parce qu'il a ils vivent le post-colonial au quotidien.
Urgente, obrigado, merci, bien entendu. Maintenant, bon, il faut aller aux projections. Après, tu vas être présent dans les deux projections et suivre les débats.
Parce que c'est ça. Je serai aux deux projections pour répondre aux questions du public. Et il y aura également Vasco Martins, qui est le personnage principal du film, qui répondra également aux questions.
Voilà, merci. Donc, je rappelle, Les Mains Invisibles, le 21 avril à 15h, MJC de Hauteville, Paris 20e, et le 23 avril, 18h, la Bibliothèque La Contemporaine à Nanterre. Et d'ailleurs, le transport le plus proche, c'est le train, c'est Nanterre Université, je crois, que c'est le plus simple.
Très bien.
Urgente, obrigado, e até breve, então.
Obrigado, Arthur.
Obrigado. E agora vamos até onde? Vamos até Lisboa, não estou a enganar, até Portugal, para falar de uma banda desenhada que é Borboleta, nem mais nem menos. Borboleta, Madalena Pereira. Aliás, a Borboleta vai ser apresentada na próxima quinta-feira, dia 18 de abril, às 18 horas e 30 minutos, no Consulado-Geral de Portugal, em Paris. Borboleta, edição Sarbacane, nem plus, nem moins. Madalena Pereira, bonjour, boa tarde.
Bonjour, boa tarde, ça va?
C'est à vous de demander ça, mas vous êtes chez moi, il paraît, vous êtes à Lisbonne.
Oui, en plus, on est dans les bouchons.
Non, il n'y a pas de bouchon à Lisbonne, voyons.
Après le pont.
Ah oui, d'accord. Bon, Madalena Pereira, merci. Alors, Borboleta, c'est une histoire, une histoire à rebours, je passerai l'expression, parce que, apparemment, vous avez un papa qui n'a pas voulu rien raconter de son vécu. Qu'est-ce qui s'est passé avec votre papa?
Ouais, c'est ça. Bah, je sais pas, il veut pas raconter son histoire. Et du coup, dans la bande dessinée, j'essaye de lui poser des questions pour qu'il raconte pourquoi il est parti du Portugal pour aller en France dans les années 70, c'était en 73. Et du coup, à chaque fois, il me répond qu'il a trop de travail et que, en gros, c'est trop compliqué. Du coup, il faut que je contacte telle et telle personne, des amis à lui, pour en savoir plus sur le Portugal dans les années 60-70 et pourquoi les gens partaient du Portugal.
Oui, apparemment, les amis de votre papa, ils ont la langue pendue.
Un peu plus, en tout cas, ouais.
c'est vous que le dites, hein. Moi, j'invente rien, hein. Je trouve ça.
Ah oui. Oui, oui, c'est marrant parce que du coup, là, je les ai rencontrés parce que dans la bande dessinée, en fait, je les interviewe pour pouvoir récolter leur vécu. Mmh. Mais je les avais jamais rencontrés jusqu'à maintenant. Et là, j'en ai déjà rencontré deux personnes. Et du coup, à chaque fois, c'est un peu émouvant parce que ils m'ont quand même raconté un bout de leur vie et enfin, voilà quoi, ouais.
Alors, dans votre BD, je rappelle Bourboulette, publié par...
Sarbacane.
Sarbacane. Sarbacane. Et pourtant, j'ai le livre devant le nez. Bon, enfin, bref, quelque chose de honnête. Alors, Madeleine Pereira, justement, dans votre livre, il y a un va-et-vient. Au niveau des dates, on avance un peu, on recule. Et ça a à voir avec les événements dans la vie de votre père. J'ai l'impression que oui, c'est par rapport à un certain nombre de périodes de la vie de votre père. Et comme ça, on fait un aller-retour entre le présent et le passé. Mais le passé est lointain, parce qu'on va dans les années 60 et tout ça.
Oui, c'est ça. En gros, il y a le fil conducteur, c'est mon personnage. Mmh. Où la BD, ça commence et je suis petite, j'ai peut-être 6 ans, je pense. Et en fait, c'est les premières questions que je me pose sur le Portugal et comment était le Portugal avant avec le Salazar et tout. Et après, en fait, c'est chronologique où du coup, on voit l'avancée de mes questionnements par rapport au pays et à mes origines. Et ensuite, du coup, il y a des premières portes, on va dire, où c'est des personnes qui me racontent leur vie. Et là, ça fait comme des flashbacks. On retourne dans le passé. À chaque fois, c'est entre 68 et 73, en gros. Et donc, c'est des petites parties. On retourne dans le passé, les personnes racontent ce qui s'était passé, etc. Et à chaque fois, en fait, pour chaque témoignage, donc il y en a environ 5, je voulais parler d'un point précis de la dictature. Donc, par exemple, la première personne qui raconte, c'est axée sur les indicateurs et les indicatrices de la police politique. La deuxième personne, c'est plutôt sur les gardes dans les colonies. Et du coup, les Portugais qui pouvaient pas avoir de passeport, les jeunes Portugais, hommes qui pouvaient pas avoir de passeport parce qu'ils devaient aller à l'armée, enfin, au service militaire, puis ensuite les gardes dans les colonies. Et après, ça parle du passage clandestin. Après, ça parle des tortures aussi de la police politique. Et à la dernière partie, c'est le témoignage de ma tante, du coup, qui raconte l'histoire plus de la famille. Et là, c'est axé sur la condition des femmes pendant la dictature.
Mmh. Et en même temps, il y a un dialogue, un couple avec deux enfants. Et ça vient au fait de parler justement de faire la guerre coloniale. Et là, c'est la mère, c'est la femme qui dit on n'a rien à faire de ton image. C'est que tu préfères avoir gardé ton image et que ton fils soit mort. C'est fort, ça.
Oui, ouais. Oui, parce qu'en fait, j'ai l'impression, en faisant des recherches, que j'ai l'impression que plusieurs personnes aussi m'ont raconté que l'image des familles, elle était très importante. Enfin, que vraiment, comment étaient vus les gens par les autres, c'était super important. Et du coup, et j'avais entendu des choses sur, que les hommes, du coup, ils voulaient vraiment être des hommes, entre guillemets, et du coup, faire la guerre, même s'ils n'étaient pas forcément, s'ils n'étaient pas d'accord. Tout ça pour garder l'image familiale. Donc, ouais. Après, il y a des parties que j'ai inventées aussi parce que, du coup, j'ai fait des interviews avec plusieurs personnes pour, du coup, avoir leur témoignage. Et j'ai calé quand même des parts de fiction au sein des témoignages et au sein de ma partie autobiographique pour lier toutes les histoires ensemble. Et que ce soit plus fluide aussi à la lecture et pour pouvoir raconter un peu plus de choses parce que, comme je me suis concentrée sur des enfants qui sont partis du Portugal en France, donc ils avaient entre 10 et 18 ans, on va dire, le plus grand avait 18 ans. Il manquait quand même pas mal de parties politiques et historiques, je pense, vu qu'ils étaient trop petits pour peut-être tout comprendre, ou je sais pas trop. Et du coup, j'ai dû, faire des recherches avec RTP Archive, des choses comme ça, pour pouvoir avoir plus de matériel. Et le musée d'Oualjo, par exemple. Et ma sœur qui m'a aidé aussi, vu qu'elle est prof de portugais, avec des documents historiques et politiques.
Oui, vous avez eu de l'aide. Alors, il y a des images de la vie quotidienne pendant le fascisme. Alors, on prend Jaime et Rose. Rose dit à Jaime, j'ai froid aux joues, tu peux me les réchauffer. Alors, à l'époque, les filles et les garçons étaient dans des écoles séparées. Ça, c'est vraiment une image. Bon, à moi, personnellement, ça me dit quelque chose, Madeleine. Mais enfin, je me vois un petit peu là-dedans. Ça me dit quelque chose.
Ah, ouais. Bah, après, j'essaie de récupérer des photos, des images, en fait, de l'époque pour pas dessiner n'importe quoi. Et Jaime, du coup, j'ai changé les prénoms, mais il me racontait que le maître, ou la maîtresse, il les battait vraiment souvent. Et ils avaient des brosses à pic, avec des espèces de bouts de pic comme ça qui tapaient sur les mains. Et du coup, ça faisait super mal. Et lui, comme il était très en contradiction avec avec la maîtresse ou le maître, il avait tout le temps les mains chauffantes, parce que à force d'être battu. Et du coup, voilà. Après, bon, j'ai un peu brodé pour raconter une histoire, mais c'est quand même la base. C'était ce témoignage, ouais.
Ah oui, non, mais je l'ai vécu, hein. On me tapait avec une règle en bois. Et attention, c'était ces lédiers secrétaires en bois, il fallait pas tirer la main, hein. Il fallait laisser la main bien collée contre ouais. le bois. Et vas-y. Alors, ça c'est très intéressant parce que c'est un regard un petit peu extérieur quand même, le vôtre, Madeleine Pereira. Je dis pas par rapport au Portugal parce que vous y êtes allée au Portugal depuis toute petite.
Oui, mais après, à chaque fois, c'est pendant les vacances. Mmh. Donc, j'ai jamais vécu là-bas. Et du coup, c'est pour ça que je raconte le lien que j'ai avec le pays, où c'est un peu bizarre parce que j'ai un nom portugais, mais en même temps, je me sens pas. Enfin, en France, je passe pour une Portugaise et au Portugal pour une Française. Et je me sentais un peu illégitime de parler du Portugal parce que je connaissais rien en fait. Et du coup, le fait de faire la bande dessinée, ça m'a appris plus de choses sur l'histoire du Portugal. Et je dis dans la BD, par exemple, que du coup, je m'y rattache un peu plus. Enfin, je me sens un peu plus appartenir au pays depuis que je connais un peu plus l'histoire historique et politique du Portugal.
Mmh. Alors, vous avez un regard décalé. Comment ça se passe avec la famille qui est restée au Portugal? Parce que, bon...
Bah justement, on va les voir, là. En gros, on a un petit peu de famille, mais c'est surtout des grandes tantes, enfin, une grande tante et des cousins. Et du coup, bah, moi, je vais pas trop au Portugal. J'y vais peut-être une fois tous les... Enfin, la dernière fois que j'y suis allée, c'était il y a 2 ans. Mmh. Et j'y suis restée peut-être une semaine ou même moins. Là, j'y reste 4 jours. Du coup, j'aimerais bien y retourner plus souvent et plus longtemps, surtout. Pour, pour vivre un peu ici. Là, c'est la question que j'étais en train de me poser. Mais est-ce que j'essaye ou pas de vivre ici un peu? Je sais pas. Parce que hier, du coup, j'ai rencontré la fille d'un monsieur que j'ai interviewé qui me disait qu'elle habitait ici depuis 5 ans. Mais qu'elle aurait dû venir avant, en fait, mais c'est juste qu'elle avait un peu peur, elle avait pas osé. Parce que ça veut dire que tu quittes quand même tout pour... du coup, c'est le chemin inverse de nos parents. Mmh. Mais ouais, à voir.
À voir. Non, mais il y a des gens, derrière des personnages dans la BD, ils font 3 mois au Portugal, 3 mois en France, parce qu'ils ont les enfants, les petits-enfants en France.
Oui, donc, c'est ça.
C'est... Alors, il y a quelque chose dans votre BD que ça m'a touché aussi, c'est quand vous avez visité le musée de Aljoub. Et là, oui. vous dites, c'est bon, à un moment donné, vous rentrez tout à fait par hasard dans une cellule, la chambre des tortures, etc., etc. Bon, dans la BD, vous sortez complètement abasourdi. Vous dites, c'est pas possible. C'est du lourd, ça.
Ouais, mais le musée, il est. Vous y êtes allé ou pas?
Oui, tout à fait. Oui.
Ah oui, je trouve. Je trouve qu'il est super bien fait parce qu'il est très oppressant. Enfin, j'ai l'impression que la scénographie, elle a été pensée comme pour faire sentir l'époque où il y a des photos partout. Enfin, il y a des discours, et puis il y a l'histoire du téléphone là où il y a un espèce de capteur, je pense, parce que quand on passe devant le téléphone, il sonne et ça fait sursauter. Et après, il y a un petit panneau qui explique que c'était les prisonniers dans les cellules. Quand le téléphone sonnait, c'était que ils allaient se faire interroger et donc sûrement torturer. Sauf qu'ils savaient pas qui allait être interrogé ou quoi. Et du coup, ça. Je trouve ça, le musée, il remet le visiteur dans cette espèce de d'oppression et puis on apprend plein de choses. Il y a vraiment plein de choses. Enfin, il est trop bien ce musée. Je me dis c'est bizarre parce qu'il y a plein de gens qui le connaissent pas, tout en habitant à Lisbonne ou alors en venant d'ici quoi. Mmh. Donc ouais.
Enfin, alors votre BD, vous l'avez présenté à Lisbonne déjà?
Oui, c'était hier.
C'était hier. Tinta de nos nerfs.
C'est ça.
Vous n'étiez pas trop nerveuse?
Non, ça va.
Non, c'est un jeu de mots. Hein. Tinta nos nervos, donc nerveuse. C'est,
Ouais. Ah oui, ok. Je ne sais pas. Ouais. Mais en vrai, j'ai un petit peu, parce que comme c'est en portugais, je ne suis pas non plus très à l'aise. J'avais un peu peur, mais en fait, ça s'est super bien passé. En plus, il faisait beau, il y avait du monde. Et la librairie, elle est trop bien. Parce que je crois que je n'y étais jamais allée, en fait. Mmh. Et il y a plein de livres qu'on trouve pas. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses super différentes de tous les pays en plus, donc c'est trop bien.
Voilà. Bon, Madeleine Pereira, on se donne rendez-vous. Ça va être ici à Paris, au consulat général du Portugal, jeudi prochain, oui. À partir de 18h30.
C'est ça. Oui. Pour faire une présentation du coup de la bande dessinée.
Mmh. Bah, voilà. Bon, donc.
Avec Pierre Léglise Costa.
Ah, c'est très important. Ouais. Alors là, c'est un directeur de collection, etc., chez Métallier. Bon, je vais pas faire de la publicité. Bon, maintenant, c'est des éditions Sarbacane. Votre livre, Bourboulette, avec tout ce que ça veut dire. C'est un jeu de mots aussi, Bourboulette. On aura l'occasion d'y revenir dessus. Madeleine Pereira, je vous remercie et bon vent.
Merci beaucoup.
Et bon retour alors. Et on se rend rendez-vous à Paris.
Oui, merci beaucoup.
Merci.
Merci.
Allez, à bientôt.
Journée.
Estamos na reta final desta passagem nível de domingo, domingo dia 14, onde é que eu pus a minha folha, mas enfim, isso é outra história. Bom, vamos até a Tissemonce, ainda que bom, agora vamos até cheirar Humité, l'air de la Corse. Quito de Souza, boa tarde.
Boa tarde, olá, boa tarde.
Então, Quito de Souza está na Machère Corsica, c'est vrai?
Sim. Exato, exato.
A Córsica. Bom, sou Corso do Fierro. Bom, enfin, bom, vou laissar de côté maintenant. Alors, à Tissemonce, va se mettre à l'heure du Portugais, plus exactement, 50e anniversaire du 25 avril, à partir du 20 avril.
Exactement, avec la collaboration de la municipalité, la ville, l'association que je dirige, Guitare et Sonne, et l'association Carles Simo, qui œuvre pour les enfants malades, pour leur apporter un peu plus de bien-être, pour pouvoir les comment dire les distraire à leurs problèmes de santé. Et donc ces trois entités associées ont préparé donc une semaine autour de la révolution des œillets, commémoration du 50e anniversaire, avec un point fort le vendredi 26, où il y aura un spectacle, un dîner spectacle, justement qui sera au profit de l'association Carles Simo pour les enfants malades, avec des artistes invités pour le fado, un groupe de danse folklorique de Choisy le Roi, et puis aussi des chanteurs qui vont animer la fête jusqu'à tard le soir.
Voilà, ça sera à partir de 19h30, espace René Elgen, 12 rue Édouard Vaillant, à Tissemonce, bien entendu. Et après, oui. Bon, et après c'est le fado. Le fado, bon, alors, Lucia Rouge, Tania Raquel Caetano, Carla Cortés, Tony do Porto, Filipe de Souza, aí é a guitarra portuguesa, Hélder Jardim, Sandra Solé, Margens do Lima, e, ah, mas e Margens do Lima, já estão, já, sei dizer, o folclore lá.
É, o Rancho
Folclórico. E depois vai haver Dante Tibério e um DJ.
Sim, o Dante Tibério e a Sandra Solé que vão animar a ou serão até durar.
Bom, de maneira que, bom, aí temos para todos os gostos, finalmente, para todos os públicos. Ora, bom, há um jogo de futebol no meio disto tudo, Quito de Souza. Um jogo de futebol no sábado, dia 27, precisamente, às 14h30, no Stade La Cité de l'Air. Rencontra de futebol e folclore português. Bom, como é que as coisas estão passando?
E portanto, isso foi a parte também da Associação Carles Simo, que convidou várias equipas para fazer um mini-torneio de futebol, com veteranos também de clubes portugueses, e vai haver uma pequena animação também no estádio de música folclórica, com um grupo de um rancho folclórico. Se permita, tudo vai começar no sábado dia 20, com o lançamento, portanto, dessa semana no hipermercado Carrefour em Tissemonce, a apresentação da semana e dos eventos que vão decorrer, e no sábado, portanto, haverá a inauguração de uma exposição de cartazes históricos da Revolução dos Cravos, com uma pequena animação também pela minha orquestra da Guitare e Son durante a inauguração dessa exposição, que vai ser na Médiathèque Simone de Beauvoir, em Tissemonce.
Ora, precisamente nessa mesma biblioteca, depois é para o público mais jovem, com efeito, contos, vai ser na quarta-feira, dia 24 de abril, às 16 horas.
Exatamente, nessa mesma mediateca vai haver um momento, digamos, mais forte, dirigido às crianças e aos jovens, com um conto português e francês que se chama A Galinha dos Ovos Misteriosos. E, no fundo, é um conto que fala da amizade, da fraternidade, da igualdade entre os povos, e acho que era um momento importante e era a ocasião também importante, dado o estado atual do mundo em geral, não é? De fazer apelo precisamente a esse tipo de valores, que são a fraternidade, a amizade e a compreensão entre os povos. Vai ser também uma pequena animação durante esse espaço, e esse conto vai ser é o objeto, portanto, de um livro que foi adotado pelo Ministério da Educação em França.
Oh, bastante importante isso. Ora, a nível de cinema, bom, bom, sinceramente, pode surpreender a vossa escolha. Vai haver a projeção do filme no cinema Lino Ventura, samedi 27 de abril, 27 de abril, às 20h30, A Cage Dorée. É uma comédia, eu sei, bom...
Sim, é um filme. Não foi forçosamente o filme que eu gostaria de fosse programado, mas pronto, isso temos também de deixar a palavra aos nossos colaboradores, e portanto foi o Centro Cultural que escolheu apresentar esse filme, e no fundo fica em relação à cultura portuguesa. Acho que é um filme bastante emblemático e que retraça, digamos, a vida de uma certa uma certa franja da população em França há vários anos, em que havia aqueles estereotipos entre o português que era pedreiro e a portuguesa que era
concierge.
exato. Uhum. Mas pronto, é também a contribuição que eles vêm dar esta semana. De comemorações da Revolução dos Escravos.
Sim, é feito. Em França é mais de 1 milhão de espectadores, não? Parece que não. E agora aqui fica uma coisinha em off, mas toda a gente vai ouvir, é que uma vez que ultrapassaram 1 milhão de espectadores, o filme desapareceu das salas, porque senão o produtor teria que pagar mais direitos aos atores. Bom, isso é outra história. Ora, faço mais ou menos uma ligação com a Guitarra e Son, a Quinta de Sousa. Isto tem a ver com o concerto que está agendado para o dia 28 de abril às 17 horas na Residência Jean-Baptiste de La Salle, Rue Paul Vaillant Couturier, concerto da Academia de Música de Vilar do Paraíso.
Sim, portanto vai ser digamos, o encerramento dessa semana com um concerto em que nós vamos receber em Atismons um grupo de alunos. São 34 alunos e 4 professores que vêm da Academia de Música de Vilar do Paraíso. São alunos da classe de guitarra. Portanto, vamos dar um concerto partilhado em que haverá uma participação também dos alunos do Conservatório de Atismons, onde eu leciono, a Orquestra de Guitarra e Son e os alunos da Academia de Vilar do Paraíso. Vai ser um encontro de ensemble de guitarras que eu prevejo muito, muito, muito interessante.
Uma pergunta indiscreta, que estou de Sousa, será que todo o trabalho que faz a nível dos conservatórios com os músicos mais jovens vai rolar alguns também para tocar com aqueles que vêm de Portugal ou não? Não está previsto?
Sim, vai haver um grupo de alunos também do conservatório que vão tocar, jovens dos 7 aos 12 anos, que vão tocar também nesse concerto. Os jovens que vêm de Vilar do Paraíso têm entre 12 e 17 anos. Portanto, a juventude em força.
La relève est assurée.
Mas era de falar. Que de Sousa, muito obrigado. Há que não esquecer também que é conselheiro municipal em Atis Mons, e se eu compreendi bem, está encarregado no que diz respeito às geminações e às culturas do mundo. Aqui, Sousa, é obrigado. Detalhámos um pouco o programa, mas se vamos ao site da Câmara de Atis Mons, está tudo explicado data por data, os participantes e isso tudo, não é?
Sim, claro, está tudo indicado.
Obrigadíssimo. Relembro, Semana Portuguesa em Atis Mons, já a partir do dia 20. Dia 20 é como quem diz, é já a partir do próximo sábado. Obrigado, Quito Sousa. A que horas é que é o concerto? Não sei se há concerto hoje na Córcega.
O próximo concerto aqui na Córcega vai ser de terça-feira. Terça-feira é na cidade de Corte, às 20h30. Sim.
Corte. Bom, salute. Salute, Córcega. Muito obrigado. Obrigado, Quito Sousa. Um grande abraço aqui do continente, então.
Obrigado. E um abraço também para os ouvintes da Rádio Alfa.
Muito obrigado. E se fôssemos ao teatro agora? Vamos a isso.
A saudade. C'est curieux, je l'ai autant pour le Portugal quand je suis en France que pour la France quand je suis ici, au Portugal. À la fois, je me sens à ma place, et aujourd'hui, j'aimerais tellement être ailleurs. C'est Joanne, ma petite sœur, qui veut vendre notre maison familiale. Il a fallu qu'on prenne une décision, c'est vrai qu'on y vient peu depuis plusieurs années. J'avais oublié comme il fait chaud ici au mois d'août.
Tu sais, c'est pas que je m'en fiche qu'on vende cette maison. C'est juste que c'est pas pareil pour moi.
La bière, la mâche qu'on dive, chez la hiche qu'on verre, si y avait nous.
Allez, saoud.
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 Clara était toujours occupée, et puis toi tu disais rien. Aucun soutien à la famille, aucun.
Eh bien oui, jamais. Jamais, parce que tu n'as jamais compris. Tu ne comprends pas que ça me ferait du mal de se séparer de cette maison.
Je vais parler avec maman. Demain, je vais appeler mon père. Je veux faire un pas vers lui.
So, tu souris, t'es qu'un tas.
Est-ce que tu crois que derrière l'horizon, nos montagnes, il y a notre vie qui nous attend?
En partie, je crois, oui.
J'ai rien à t'offrir ici.
De tout voyage, même du plus petit.
Je reviens comme d'un sommeil rempli de rêves.
Ici et là-bas, grand bonjour Monaco, grand bonjour également Provence-Alpes-Côte d'Azur, Daninger, bonjour.
Bonjour.
Je salue tes futurs spectateurs, n'est-ce pas?
C'est très bien. Bonjour à tous les monégasques, et j'espère nombreux, d'origine portugaise ou purement monégasque, voilà, on vous attend très nombreux.
Oui, et de Paca aussi, puisque la frontière, c'est auprès de Nice, etc., etc. Donc, jeudi 18, vendredi 19, samedi 20 à 20h, et dimanche 21 à 16h30, Théâtre des Muses. Alors, oui, c'est tout un programme d'être sur scène au Théâtre des Muses, un principe, ça donne l'inspiration, non?
Disons que moi j'ai hâte, hein. J'ai pas encore le plaisir de connaître de connaître le théâtre, mais ça a l'air d'être d'après les photos et tout, ça a l'air d'être un théâtre très très sympathique, et sache que on est déjà complet pour le jeudi 18, donc j'espère que les gens viendront vendredi, samedi et dimanche, quoi, voilà. Et évidemment que ça a aussi une signification de sortir aussi de la région parisienne et d'apporter un bras de notre culture et comment dire de montrer voilà d'apporter un voyage au Portugal à d'autres régions de France. Moi, je suis très honoré, puis toute l'équipe est très honorée de pouvoir passer au Théâtre des Muses.
Alors, un théâtre musical, on a entendu un petit extrait de la bande sonore. Alors, Isabelle Ribeiro, elle est aussi, c'est elle la principale responsable des textes, n'est-ce pas?
Donc,
puis sur passer un tribunal, c'est elle qui passe en premier. Ninguém dos Santos et Simon Quintana. Cette pièce, en résumé, je l'ai déjà tellement expliqué à nos auditeurs, mais derrière ça, je sais pas pour rien, Soldat ici, et ici et là-bas. Le titre, il dit tout. Bon, il y a le départ au Portugal pour vendre une maison de famille, etc., etc. Et là, ça déclenche tout un tas de réactions. Il y a des souvenirs qui viennent en tête. Il y a tout un tas de choses. Finalement, on est d'ici, on est là-bas. En résumé, c'est un petit peu ça.
C'est la transmission qui est faite. Alors tu sais que en ce moment je suis en tournée avec mon harmoniciste Bruno Rouillet ici en Bretagne, et comme on fait quelques kilomètres ensemble, il y a tellement de points communs justement avec ce qu'ont vécu les Bretons, le peuple aussi de l'océan, et donc en fait tu es forcément rappelé par tes racines tôt ou tard, et même alors dans la pièce on parle des trois générations, la première qui a fait Oussard, la deuxième dont je fais partie, et la troisième qui est complètement dans le sujet, ou qui n'en a rien à faire. Et donc du coup la pièce parle justement de ces trois générations, de ces trois sentiments, mais en plus de cette espèce de dualité aussi que chacun peut avoir dans toutes les générations, quoi. Voilà. Et sur cette deuxième partie, en parlant de soldats d'ici et là-bas, mais c'est aussi cette soldat de, parce qu'on en a parlé 15 000 fois de ça, c'est le manque, évidemment, mais c'est aussi le manque de ce qu'on a envie de découvrir dans le futur, ce qu'a certainement vécu nos grands navigateurs.
Ouais, mais il faut pas courir derrière une chimère. Mais enfin, bon, le résumé, soldat ici là-bas, l'histoire d'une famille, d'un amour, d'un exil. Donc les dates, je rappelle, à Monaco, à Théâtre des Muses, 18, 19, 20 et 21 avril. Alors, avant de parler, bon, Dieu, vous allez être après à la fin de ce mois-ci à Ormesson, on aura le temps. Et à partir du 29 ce mois-ci, au studio Héberto, à Paris, Paris 17e, et apparemment il y a déjà des dates qui sont complètes, bon signe. Alors, voilà, ce qu'on aimerait bien compléter, et ça va être ma dernière question, où est-ce qu'on est, vous avez lancé une campagne de financement participatif pour aller au Festival Off d'Avignon, d'autant plus que... c'était pour marquer aussi les 50 ans du 25 avril 60.
Ah oui, forcément qu'il faut qu'on y soit à Avignon cette année. Alors je te cache pas qu'il y a forcément des sponsors, mais on nous avait glissé à l'oreille que ce serait aussi bien, parce que c'est aussi cette histoire, c'est l'histoire un peu de tout le monde. Donc il y a monsieur et madame tout le monde peuvent aussi participer donc à cette fameuse cagnotte qu'on trouve sur Hello Asso pour participer à cette aventure, et il y a forcément ce qu'on appelle des contreparties comme toutes les j'ai plus le mot en anglais en tête, mais de cette fameuse cagnotte pour nous aider à présenter cette pièce dans les meilleures conditions là-bas à Avignon cette année.
Oui, d'ailleurs j'ai vu que dernièrement il y avait une Catherine qui avait fait aussi un don pour financer votre aller à Avignon, Festival Off. C'est ni plus ni moins, c'est la présidente de l'association de Nice qui organise la semaine festival du film Lusophone, Catherine.
C'est marrant que tu en parles, parce qu'on parlait de toi justement. Je suis comme j'ai fait un peu de promotion sur internet par rapport à ça, je suis arrivé presque par hasard, et c'est comme ça que j'ai eu connaissance de son festival de cinéma Lusophone du côté de Nice, si je m'abuse, ou Beau Soleil, non, c'est Nice, je crois, c'est ça.
Oui, c'est à Nice. Bon, ils sont un petit peu, ils font des, quand c'est le festival, c'est en trois, à Grasse aussi, etc., etc.
Comme quoi, mon cher Arthur, ton émission est...
Ça sert à quelque chose, des fois.
Non, mais c'est pas, ça sert à quelque chose, c'est, comment ça, des fois, à chaque fois, et je t'en remercie du travail que tu fais, c'est, voilà, ça a pas de nom, mais je...
Bon, Dan, c'est à vous, à toi et à d'autres qui participent à l'émission que je remercie parce que sans vous, pourrais-je parler, mais enfin bon.
C'est un travail d'équipe, mon cher Arthur. On a tous besoin des uns des autres
pour
pouvoir avancer.
Ouais.
On va peut-être moins rapidement, mais on va beaucoup plus loin tous ensemble.
Voilà. Et d'ailleurs, bon, comme on est en train de terminer l'émission, un grand merci aussi à Manon Rochindre, parce que sans lui, cette émission ne serait pas une réalité.
Un abraço, on est Manon ou pas.
Okay. Bon vent pour Monaco et après, ça va être à Romainville et après, ça va être à Paris 17e. On aura le temps de revenir. Bon, essayez de prendre un bon bain, là.
Oui,
la Méditerranée, pour moi.
Mais on chante portugais ici en Bretagne. C'est vraiment un vrai plaisir. On va chanter ce soir dis-moi, Bruno, le nom du bled ici.
Kerrock,
exactement. Plummer, pas très loin de. Enfin, on n'est pas loin de l'Orient, en fait, ici.
Ah,
voilà.
D'accord.
Et c'est vraiment un super plaisir. Et encore une fois, le peuple breton est très proche d'une autre portugais.
La mer, bon. Essayez de trouver une cornemuse. Bon, enfin, passons. merci, Dan, et à très bientôt.
Muito abraço.
Obrigado.
Tchau.
E mais uma vez, obrigado a Manuel Alexandre. Estamos a chegar às 14 horas, emissão com redifusão na noite de terça para quarta-feira, a partir das 2 horas. E igualmente o podcast, bem-ajam, e espero bem estar aqui no dia 21 de abril.